Bonjour et bienvenue dans Bazartland, l'émission du collectif Bazar, 4e opus. On y parle art, création, expérimentation, vie locale et même écologie. Au menu, Émilie Thomas, artiste verrier du collectif, se transforme en reporter pour sa chronique Le Tour de Main. On retrouve avec elle, pour la seconde partie de leurs entretiens, Caroline Marc, enduiseuse décoratrice à Kélus. Par la suite, Dominique Motte, conteur à Najac, nous emmènera au Japon avec un conte intitulé « La femme dorade ». Puis nous finirons avec « Côté anglais » par Chris Adams et Peter Mobbs, une chronique entre rire et jeu de mots, un vrai remue-ménage. Mais pour l'heure, retrouvons le temps d'une interview, Fred Boyer. Véritable artisan de la nature, Fred possède un panel impressionnant de compétences à son actif. Allons de ce pas à la rencontre du paysan des couleurs.
Claire, on y des couleurs, des textures, des reliefs, des signes, tout ça, l'arbre l'assume parfaitement. La nature n'a pas besoin de l'homme pour être artiste, l'art n'est peut-être qu'une tentative d'usurpation de son pouvoir de séduction. Et donc ça, en fait, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Les arbres dont je suis fait » et autres retours sauvages de Maurice Chaudière, qui est un monsieur qui est apiculteur, greffeur, poète et potier en Ardèche, et qui est un monsieur en fait, qui a beaucoup travaillé sur la relation homme-nature, et voilà, qui est un ami, voilà.
Bonjour Fred.
Oui, bonjour.
Alors, on te connaît sous le nom de paysan des couleurs. Ce terme paysan des couleurs, c'est toi qui l'as inventé ou c'est comme ça que tu t'es fait nommer ?
Ben, c'est moi qui l'ai inventé.
Et qu'est-ce que tu mets du coup derrière ces mots paysan des couleurs ?
Ben, j'y mets plein de trucs. J'y mets déjà que des paysans, pour moi, il n'y en a plus. Donc, ou en fait, en tout cas, ils ont disparu. Donc, il serait intéressant de les réinventer. Mais pour réinventer les paysans, il faut assumer qu'est-ce que c'est qu'un paysan. Et moi, donc, en le mettant la couleur avec, pour moi, en fait, c'est lié à une histoire de rêve, mais aussi de pratique, parce que moi, je pratique de la couleur. Mais aujourd'hui, quand je dis, après, ça peut choquer des gens de dire qu'il n'existe plus de paysans, mais si les gens qui se définissent paysans, ils se sentent choqués, c'est qu'en fait, ils ne sont pas paysans. Donc aujourd'hui, sur le territoire, il y a plutôt des agriculteurs ou des exploitants agricoles qui, en fait, quand ils cultivent leur terre ou quand ils élèvent des animaux, ils n'ont même plus un jardin pour eux ou des animaux pour eux. Donc, en fait, un paysan, c'est quelqu'un qui est en direct avec son pays et son territoire et qui met les mains dedans et qui touche sa terre et qui caresse ses animaux. Voilà. Et qui, à un moment donné, en fait, alors peut-être que je m'étale un petit peu là, mais qui, en fait, eh bien aussi, va pas. C'est lui qui va dicter ce qu'il a envie de vivre. Voilà, si un éleveur, en fait, il élève des animaux et que son activité, elle est guidée par l'administration qui lui impose de mettre des puces à ses animaux, et bien là, en fait, pour moi, il est vraiment au service de l'administration et, en fait, des multinationales et pas à son service à lui et au service des gens pour qui il élève des animaux et pour qui il cultive des plantes. Voilà.
Et donc ça, c'est pour le mot paysan. Mais quand tu dis couleur, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière ce mot des couleurs ? Puisqu'en fait, bon, moi, je le sais déjà un peu, je te connais, tu travailles donc le monde de la couleur végétale.
Voilà, entre autres, parce qu'en fait, moi, il n'y a pas que le côté couleur végétale, mais ben, derrière, il y a le fait de regarder le monde différemment, et la couleur, elle a un rapport aussi avec la lumière. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Et pour moi, la couleur, elle a un lien avec le fait qu'on en a besoin tous les jours de la couleur. Voilà. Et là, en fait, en même temps, quand moi je propose des choses autour des couleurs végétales, parce que je propose aussi d'autres choses, c'est aussi aller un peu à la source de la couleur, et savoir d'où elle vient, et la voir naître devant nous, quoi.
Alors nous, au Bazar, on t'accueille depuis mi-mars pour un cycle d'ateliers autour des couleurs végétales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les ateliers que tu proposes au Bazar ?
Oui. Donc, déjà, il y a eu des ateliers qui ont eu lieu, dont le dernier qui était sur les encres végétales. Et donc, donc il y a celui-là, le prochain qui va avoir lieu, qui sera le 12 mai sur l'indigo. Et après, les suivants sont sur la teinture de laine, ou la teinture du coton, voilà. Il y a aussi un atelier enfant. Et ben, donc, ces ateliers, c'est transformer le bazar en une cuisine. En fait, c'est vraiment mettre le bazar au bazar. Mmh. Et donc, avoir des plantes, peut-être aussi toute une droguerie avec des minéraux, avec des casseroles, de l'eau, et les gens qui sont là. Et en fait, on va cuisiner à la fois des recettes qui sont inscrites dans la tradition, mais qui ne sont pas des recettes du passé, parce qu'en fait, la tradition, ce n'est pas le passé. C'est à la fois un centre de ressources qui nous est mis à disposition, et en même temps, nous, on va s'en servir, mais nous, en le faisant, eh bien, on va aussi agrémenter ce centre de ressources, et en même temps, on va aussi, chacun, on va vivre un truc ensemble, en y mettant les mains dedans, c'est un atelier, mais aussi, en fait, en se disant, eh bien, je vais pouvoir le refaire après moi, et je vais me l'approprier, quoi.
Et par exemple, quelqu'un qui voudrait venir faire un stage d'initiation à la teinture ou un atelier de teinture à l'indigo, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire ?
Ben, si on prend le prochain stage qui est la teinture à l'indigo, et ben, l'idée c'est déjà de découvrir qu'il y a plusieurs plantes qui ont été utilisées pour faire en fait, l'indigo c'est une matière colorante. Mmh. La plante ne contient pas d'indigo, elle contient des précurseurs de l'indigo. Et l'indigo, c'est dans le monde des couleurs végétales, c'est une couleur qui en fait que l'homme fabrique. Et si la plante connaît l'indigo, elle le connaît quand la plante elle est morte. Parce qu'en fait, l'indigo, c'est une couleur qui arrive avec l'oxydation en contact avec l'air. Et donc, le fixateur, quand on teinte des tissus, le fixateur des plantes du bleu, en tout cas de l'indigo, qui est le bleu le plus solide du monde végétal, eh bien, en fait, c'est l'air. C'est-à-dire que quand on fait une cuve à indigo, c'est-à-dire un bain de teinture qu'on a dans notre casserole ou dans notre récipient, tous les éléments pour faire une cuve à indigo, quand on trempe un tissu, le tissu, en fait, on le trempe dans un liquide qui est transparent avec des reflets un peu jaunes et qui vont même virer sur le rouge. Et quand on trempe un tissu à l'intérieur, il est jaune un peu vert dedans. On le ressort, il est jaune un peu vert et en contact avec l'air, en fait, il s'oxyde en bleu. Donc, en fait, si on a... voilà, en fait, on utilise une technique particulière et ce qu'on va faire le 12 mai, c'est qu'en fait, il y a plein de techniques pour monter des cuves à indigo. Alors, des cuves, peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais c'est ce qu'on appelle du récipient dans lequel on va pouvoir teindre. Il existe plein de recettes différentes. Avec, même si l'indigo est une matière colorante naturelle, alors on développera plus ça pendant le stage, et bien, en fait, on va l'additionner, chaque fois qu'il y avait additionné avec des choses. Et aujourd'hui, l'indigo, souvent, il est additionné à des choses qui ne sont pas du tout naturelles, quand même, quand les gens font ça. Et là, nous, l'idée, c'est d'apprendre aux gens comment faire une cuve à indigo au sucre. Donc, carrément avec du sucre, du fructose, ou on pourrait le faire avec des fruits très sucrés et, en fait, de la chaux. Voilà, donc c'est une recette que je n'ai pas inventée, mais qui se pratique dans différents pays. Voilà.
Et donc les stagiaires qui viendront, si je comprends bien, ils arrivent les mains dans les poches et ils repartent avec un ensemble de recettes, peut-être qu'ils peuvent reproduire chez eux, et puis sans doute des morceaux de tissu.
Alors ils arrivent avec les mains dans les poches, mais il serait bien qu'ils les sortent des poches, parce que sinon en fait on ne va pas y arriver. Et donc et l'idée c'est qu'en fait, voilà, on va apprendre comment, on va découvrir ce monde du bleu. Donc ça s'inscrit aussi dans l'histoire des couleurs, voilà, mais on va pratiquer. Et l'idée c'est d'arriver à pas venir avec ses rideaux pour teindre ses rideaux, parce que sinon, si tout le monde arrive avec ses rideaux, on va pouvoir y arriver, il va nous falloir énormément de matière, énormément d'eau, mais on va teindre des matières différentes, c'est-à-dire du coton, de la laine, du chanvre, etc. Et donc, on va teindre des tissus qui sont à la fois blancs, et puis moi, je vais amener aussi des bouts de tissu ou de la laine de couleurs différentes, et de voir, par exemple, plein de jaunes différents qui ont été teints avec des couleurs végétales. Et quand on va les tremper dans la cuve, apparemment, ils nous paraissent tous quasiment les jaunes similaires. Et quand on les trempe dans la cuve, on sort des verts avec des nuances différentes. Et avec des rouges, on fera des violets, etc., etc. Et puis l'idée aussi, c'est de montrer différentes techniques aussi de nouer, en fait, pour faire des dégradés, des chibouris et autres.
Donc ça, c'est pour ton activité autour des teintures végétales, mais je sais aussi que tu as d'autres activités, que ce soit les sorties animations en pleine nature ou encore le compostage de proximité. Est-ce que tu aimerais nous en dire un peu plus sur ces autres activités ?
Oui, rapidement. Autour du compostage, l'idée, c'est d'inciter les gens sur le territoire à composter. Mais en fait, quand on composte, L'idée, c'est aussi de travailler sur le quotidien. Et c'est toujours en lien avec les pratiques des gens. C'est-à-dire que c'est de voir comment on peut trouver des solutions sur le territoire pour arriver à composter. Mais c'est composter, c'est aussi créer du lien avec ses petits-enfants, avec les enfants, avec d'autres personnes de son quartier. Parce qu'on va chacun y trouver son intérêt, à la fois de réduire tout ce qui va dans nos poubelles qui est fermentissible, mais aussi de découvrir toutes les petites bêtes qu'il y a dedans, des vers de terre en passant par les cloportes, les mille-pattes, etc. Et après, sur le côté balade nature, moi, je propose ce que moi j'appelle des ateliers promenades. Donc, en fait, c'est pas vraiment une balade ni une randonnée. C'est une promenade où on va faire des choses au fil des chemins. Voilà. À la fois des choses, pourquoi pas des teintures, comme on a évoqué, mais pourquoi pas fabriquer des sifflets, goûter une plante, et puis aussi regarder ce qu'on a autour de nous, à des moments, s'allonger, sentir. Et l'idée, c'est aussi de faire naître des surprises qui n'étaient pas prévues, voilà, que je ne vais pas forcément dire à l'avance, mais aussi valoriser le fait qu'il y a un oiseau qui passe ou un animal qu'on a vu et qu'on croit avoir vu ou qu'on a vu, vraiment.
Merci beaucoup, Fred, pour ce moment que tu nous as accordé, et puis à très vite au bazar.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Avant de retrouver le tour de main avec Caroline Marc, on s'écoute un petit moment musical. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long-haired gig or stuff like that? When everybody wants to be a cat, yeah! To be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. While playing jazz, you always have a welcome mat, cause everybody digs a swinging cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set this music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long-haired gig or stuff like that? When everybody wants to be a cat. Yeah! Turn me on, play your horn, don't spare the tone, and blow a little soul into the tune. Let's take it to another key, modulate and wait for me. I'll take a few ad libs in pretty soon. The other cats will all commence congregating on the fence beneath the alley's only light, where every note is out of sight. Yeah! Everybody, 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 everybody. le tour de main. Nous retrouvons pour la seconde partie de notre entretien Caroline Marc, décoratrice enduiseuse à Quélus, spécialisée en enduise et peinture écologique et traditionnelle. Vous allez voir, choisir de poser un enduit dans une maison, qu'il soit en terre ou de chaux, qu'il contienne du sable ou du chanvre, ce n'est pas une mince affaire. Caroline apporte un soin tout particulier à ses clients, à leurs besoins, leur quotidien, leurs envies. La pose d'un enduit dans une maison est en effet bien plus impactante que ce que vous pourriez imaginer. Il s'agit véritablement d'une rencontre entre matières et corps. Et tout devient question de sensations et de ressentis, visuels, thermiques ou même sonores. On mesure alors toute l'érudition de Caroline qu'elle construit à force d'expérience, d'écoute, d'observation et de questionnement. Je t'entends souvent parler de la matière. Et tu as évoqué le chanvre, tu as évoqué la chaux. En fait, j'imagine que derrière la matière, il y a des matières.
Eh bien, oui, effectivement. Moi, la matière qui m'intéresse à la base, c'est l'humain. La deuxième matière qui m'intéresse ensuite, c'est la maison. Dans la maison précisément... Eh ben, toutes sortes de matières se rencontrent, le bois, la chaux, la pierre, la terre, le chanvre, le caillou. Et je différencie bien pierre de caillou par rapport au le caillou du sol et les pierres des murs. Enfin voilà, il y a toutes sortes de matériaux qui se rencontrent. Chacun a une vibration, une énergie différente, à mon sens, quand on le touche d'abord, ensuite quand on l'attaque ou le caresse avec nos outils. Et du coup, y a plein de gestes, tout comme si on devait faire un massage à quelqu'un en fonction de sa pathologie, on le prend différemment. Si on a aussi, je sais pas, une personne à trimballer en fauteuil roulant, on va faire plus attention si elle est juste en fauteuil parce qu'elle a une jambe cassée ou si elle a tout le corps qui est tout ravagé. Donc on prend toujours les gens différemment. Et là, la matière, c'est pareil. Il y a des matières très 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 délicates, des matières qui nécessitent une attention extrême. Et c'est à la fois anxiogène et excitant et passionnant et nourrissant et voilà. Mais dans mon métier de plasticienne ou décoratrice, enfin les gens penseront ce qu'ils veulent, maçon de finition, j'ai pas de nom en fait, ça n'a pas de nom. Effectivement, je visite des tas de corps et des tas de matières. Voilà. Donc, quand je disais état de corps, c'est pas beaucoup de corps, c'est des états de corps. Et ces états de corps, avec plus ou moins d'humidité, plus ou moins de granulométrie, plus ou moins de finesse, plus ou moins avec des sons différents, avec en fait tout ça, ça amène à pas s'ennuyer sur le chantier quand on est tout seul, à en découvrir tous les jours, à devoir aussi ouvrir les bouquins le plus souvent possible pour être le plus pertinent possible, et ça je pense que c'est toute une vie, à poser des questions à des gens qui font le même métier, et en fait quand on se rencontre au café, on parle de matière quoi, de temps de prise, on parle de poids, de cubage, on va parler de tout ça, ça revient tout simplement à... Ouais, donner un ordre au chantier, une pertinence à la rencontre des diverses couches qu'on va devoir poser. On va questionner le plombier sur quel type de chauffage il va mettre en place pour savoir quelle matière on va utiliser. Parce que il y a une porosité, il y a une conductivité, il y a des briques réfractaires, pas, etc. Des enduits qui doivent être étanches, d'autres pas. Et tout ça, c'est la physique, quoi.
Concrètement, quand tu es appelé par un client sur un chantier, j'imagine qu'il va y avoir un long dialogue entre ton commanditaire. Et quand tu parles de l'humain, est-ce que c'est parce que tu penses également à comment va vivre la maison en fonction de l'enduit que tu as posé dessus et donc aux répercussions que ça va avoir sur la qualité de vie de ses habitants ?
En fonction du client, je passe plus ou moins de temps chez lui pour la première visite. Et ensuite, en fonction de ce que je sens de lui, soit la première visite dure, et puis en fait, on a quasiment tous les éléments quand je repars, soit c'est plus mystérieux, ou la maison pose question, ou je ne comprends pas forcément très bien ce que le client va me dire, ou il n'a pas le temps, ou etc., etc. Donc il y a ces premières choses-là. Ensuite, je vais effectivement poser des tas de questions aux clients qui n'ont rien à voir avec la finition qu'il va vouloir. La finition ou en tout cas l'état d'enduit. Ou...
Par exemple ?
Eh bien effectivement, je vais lui poser la question de quel type de chauffage il a chez lui, quel ressenti physique il a. Parfois on m'appelle en fait pour une finition genre j'ai froid, j'ai de l'air qui passe à travers mes pierres. Je veux que vous enleviez ça. Cette sensation. Est-ce que c'est possible ? Parce que il paraît que l'enduit, patata. Eh ben là, j'ai deux questions à leur poser. Là, j'ai des branches d'arbres qui commencent à se ramifier. Donc le tronc, c'est la question de la personne, plus ou moins multiple. Donc si je prends cet exemple-là, moi, je vais devoir lui poser la question. D'accord, très bien. Vous sentez de l'air ? Est-ce que vous sentez du froid ? Est-ce que vous avez froid ? Ou est-ce que c'est juste l'air qui vous chiffonne, le courant d'air ? Ensuite, il va falloir savoir si l'air vient d'une mauvaise colmatation autour des huisseries, de ponts thermiques, ou si c'est juste une matière précisément qui ne convient pas au client. Ensuite, il va falloir savoir s'il faut que je rajoute une isolation avant de faire une finition. Parce que si le client a frais, voire froid, il faut savoir si ça vient d'un problème d'humidité ou si ça vient juste d'un problème de courant d'air ou si c'est la matière qui ne convient pas du tout. Tout ça, ça oriente mes propositions. Soit je vais orienter vers de la terre qui est beaucoup plus douce à la sensation et à ce moment-là, on peut finir en terre sans avoir fait d'isolation. Mais si la personne a vraiment froid, ça n'a rien à voir, il va falloir proposer une isolation qu'on finisse à la terre ou à la chaux. Ensuite, une finition à la chaux, c'est plus frais. Ça donne un son qui est plus dur. Ça fait donc rebondir les bruits de la maison, la musique, les claquements de porte, le son du vent, n'importe quoi, le cri d'un bébé, n'est-ce pas ? Et donc du coup, tout ça oriente en fonction de la sensibilité du client. Moi, il faut que je sache absolument. Et alors, s'il y a deux clients, précisément par exemple des colocataires ou des amants, eh ben, il faut savoir si madame ou monsieur a plus ou moins froid, plus ou moins chaud, et du coup réussir à trouver un compromis, parce que je ne sais pas qui paye, parce que moi je ne m'occupe pas de ça, mais à la fin il faut que je sache, je sois sûre que mes clients sont satisfaits.
En fait, moi, en t'écoutant, j'apprends. Je suis en train d'apprendre, là. Mmh. Je ne m'étais pas rendu compte que le fait
Est-ce
de
que
faire une...
Se rendent compte,
c'est ça. Je ne m'étais pas rendu compte que le choix d'une finition en terre ou en chaux pouvait impacter les ondes sonores, la façon dont elles se diffusent dans la maison.
Les sensations physiques.
Alors, les sensations physiques, ça, je le savais. Mmh. Mais je n'avais jamais songé au son. Et je me demande tout simplement si quand tes clients t'appelles, si c'est quelque chose qu'ils savent, ou si au contraire c'est toi qui vas les informer de à quel point ce choix de matière dans la maison a de multiples impacts.
Il y en a qui savent parce que, allez, en admettant, le son, pas forcément, mais les gens vont en vacances au Maroc. Ah, oh, ouais, ils voient un tas de lacs, ils trouvent ça magnifique, ils veulent ça comme finition chez eux. Alors quand je leur donne le prix, ils font... Bon, en admettant qu'ils en veulent vraiment. Une fois qu'ils ont halluciné sur le prix, parce que ça, c'est vraiment fastidieux à faire, c'est très laborieux, c'est très long, c'est très... Enfin bon, voilà, c'est justifié. Mais ils veulent ça. Pourquoi ils veulent ça ? Eh bien, certains parce que ça leur rappelle leur voyage, certains parce que ça leur rappelle la matière qu'ils ont rencontrée en voyage, et certains autres parce que ils ont adoré le côté grotte, le son qui rebondissait. En fait, ça dépend de la sensibilité du client. J'ai une cliente une fois, nous avions une cliente une fois, parce qu'on était deux sur le chantier, à accueillir son ressenti. Quand on l'a rencontrée, elle nous a dit « Je suis musicienne. Je connais les enduits terre parce que j'en ai vu chez des amis ou j'en ai eu dans une ancienne maison. » Je ne sais plus exactement ce qu'elle nous a dit. J'ai fait faire un enduit, un corps d'enduit chez moi pour passer par-dessus des pierres rejointoyées, mais qui n'étaient pas à son goût. Et surtout, bon, qui était vieille, donc pas forcément hyper bien rejointoyée, vu qu'une partie était tombée. Et elle nous a dit, bah, moi je pensais faire au départ un corps d'enduit pour faire un, on appelle ça un renformi, pour réégaliser, rattraper, voilà, la surface et la rendre travaillable pour la suite, pour la finition. Et elle souhaitait une finition lissée pour pas que ça poudre trop, voire que ça ne poudre pas du tout, ce qui est possible. Mais elle nous l'a présenté de cette façon-là, que ça poudre pas trop. Et puis que surtout ça soit reposant visuellement et que ça soit pas trop brut, que ça soit un peu doux. Bon, c'est des termes, c'est des sensations. Nous, on essaye de capter ce que le client veut bien nous dire là-dedans. Et elle nous explique qu'elle a fait le corps d'enduit chez elle et qu'acoustiquement, c'était tellement différent de ce qu'elle avait déjà vu en terre, qui lui avait déjà plu. Enfin, elle ne l'avait pas vu, elle l'avait entendu pour le coup. Qu'elle nous a dit, mais oh, c'est encore mieux. Je voulais une finition terre lissée, patata. Parce que, ou je l'avais déjà eu chez moi, ou je l'avais ressenti chez quelqu'un. Mais après avoir ressenti l'enduit de corps, enfin le corps d'enduit sec, elle nous a dit, mais c'est encore mieux acoustiquement. J'ai appris quelque chose ce jour-là. Moi, je savais qu'il y avait des différences, mais je ne savais pas comment elles étaient réellement palpables, parce que je suis sensible, mais moi, je ne suis pas musicienne. Et pour elle, c'était évident. Ça m'a vraiment ouvert une piste, quoi, de réflexion. J'ai compris que un enduit lissé, bien serré, bien fermé, eh ben, il réfléchit le son plus facilement, parce qu'il y a moins de place. Le son, un petit peu comme au billard, il repart directement. Alors que s'il y a des obstacles, quels qu'ils soient, des petites bosses, des petits creux, des petits, je sais pas, des matières qui ressortent ou pas, et bien résultat, si c'est poudreux, si en fait, s'il y a de la fibre, ça rebondit pas du tout de la même façon, c'est voire absorbé. Et donc tout ça, pour une chambre d'enfant par exemple, pour une nuit paisible, c'est vachement intéressant à réfléchir. Si les gens me disent j'ai des problèmes de sommeil dans la discussion, je sais pas. Parce que parfois, on ne parle pas que de l'aspect final, quoi, de ce qu'ils veulent, de moi. Et là, je leur dis, ah, vous avez des problèmes de sommeil. D'accord ? Et qu'est-ce qui vous chiffonne ? Ah, j'entends la chasse d'eau, le frigo, je ne sais pas quoi. Ah, mais là, moi, je me dis enduit terre. Ou isolation fibrée sous un enduit pas trop serré. Et là, après, on discute. Est-ce que c'est plus important ça pour vous ? Ou est-ce que c'est plus important le visuel ? Et ensuite, évidemment, leur sommeil m'importe peu. À la fin, ce qui m'importe, c'est que ça leur convienne. Si c'est leur sommeil qui leur importe plus, je vais m'attaquer à ça. Si c'est plus le visuel, la couleur, je vais m'attaquer à ça. Ça dépend d'eux.
Son intervention, elle va bien au-delà d'un aspect simplement décoratif ou utilitaire en termes de bâtiment.
Ah bah c'est évident. Je crois que je serais jamais venue à faire décoratrice, quoi. Quand les gens me disent en fait vous êtes décoratrice, j'ai pas envie de les chagriner. Si c'est comme ça qu'ils me voient, autant qu'ils le voient comme ça. Mais pour moi, c'est pas du tout ça. S'il n'y a pas cet intérêt-là vers l'autre, ça m'intéresse pas, quoi. Je vais m'occuper de moi. Parfois, pendant 6 mois, j'ai pas un seul chantier qui vraiment fait appel à ce à quoi j'aspire, moi. Mais j'ai des compétences, je les mets au service des clients avec bon cœur. Et puis, je crois qu'ils mettent du cœur à me donner des sous, et je suis ravie, ça fait tourner la boutique. Et ça nourrit. Ça nourrit les gens, ça me nourrit moi. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est la rencontre.
Merci beaucoup, Caroline, pour ton accueil. Dans ton futur atelier galerie, dans ce moment très privilégié de gestation de ton futur atelier galerie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ?
Que toutes ces choses ne soient pas vaines, qu'elles servent à quelque chose, ouais. Que les rencontres se fassent d'elles-mêmes et que sans forcer, sans faire de tapage, les choses coulent de source.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à toi.
Si vous souhaitez rencontrer Caroline, vous pouvez la retrouver à son atelier-galerie situé à Quélus, 4 rue Droite, sur rendez-vous au 06 52 86 01 66 ou par mail lacaro.elementairedeco@outlook.fr. Toutes ces informations sont à retrouver dans le podcast de l'émission sur le site cfmradio.fr, rubrique Le Tour de Main. Bara, alo yure soke woda. Omonia la wana mama Kenya irawoe. Bara suayo. Omonia la wana mama Kenya irawoe. O bara suayo. Retour sur CFM, vous êtes bien dans l'émission Bazartland, l'émission du collectif Bazart de Saint-Antonin-Nobleval. Et tout de suite, on écoute un conte de Dominique Motte.
C'est l'histoire d'un pêcheur courageux, mais malchanceux. Courageux, parce que quel que soit le temps, il prenait sa barque et il partait à la pêche. Et malchanceux parce que de toute sa vie de pêcheur, il n'a jamais attrapé un seul poisson. Pas de poisson, pas d'argent. Pas d'argent, rien à manger. Or, au petit déjeuner du matin, bouillon d'algues. Déjeuner bouillon d'algues, repas du soir, bouillon d'algues. La recette du bouillon d'algues est très simple. Vous prenez de l'eau, vous rajoutez une pincée de sel, vous mettez quelques morceaux d'algues, vous faites bouillir et vous servez bien chaud. À midi, que l'homme revenait de la pêche, bredouille comme d'habitude, après qu'il ait tiré sa barque sur le sable, il aperçoit au loin, là-bas, des enfants tout agités, énervés. Intrigué, il s'approche et Il voit qu'il se passe quelque chose de main en main et de pied en pied. Il s'approche encore et voit que ce qu'il se passe comme ça, c'est un poisson. Une dorade rose, très exactement. Il chasse les enfants. Il prend le poisson dans ses mains. Et là, il fait quelque chose d'étonnant pour un pêcheur qui de toute sa vie n'a jamais attrapé un seul poisson. Il entre dans l'eau jusqu'à mi-cuisse. Il prend délicatement le poisson, le fait aller d'avant en arrière. Petit à petit, ses nageoires se mettent à bouger imperceptiblement et il s'en va vers le large. L'homme rentre chez lui, étonné de son geste, mais content de l'avoir fait. Mais ce soir-là, alors qu'il est en train de boire son bouillon d'algues, vient un orage comme il n'en a jamais connu. Des gouttes grosses comme le poing qui tombent sur le toit de la maison, le volet qui claque, les arbres qui gémissent là-bas. Et l'homme qui, pourtant, est plutôt du genre courageux, pour la première fois de sa vie, a même un petit peu peur. Et c'est dans ce tintamarre-là que, soudainement, on frappe à la porte. On ne frappe jamais à la porte du pêcheur. Intrigué, il va ouvrir et il voit une jeune femme trempée de la tête aux pieds qui lui demande l'hospitalité pour la nuit. Bien sûr, il la fait rentrer. Et quelques instants plus tard, la jeune femme est près du feu, enroulée dans une couverture et ses habits sèchent pas très loin. La soirée se passe en discussion très agréable. Vient le moment du coucher. Il lui propose sa chambre et lui dort dans la cuisine. Il est content, l'homme. Il la trouve jolie. Mais le lendemain matin, quand le jour se lève et qu'il doit partir à la pêche, elle dort encore. Il n'a pas le cœur de la réveiller. Un peu triste, il se dit que quand il reviendrait, elle ne serait plus là et que c'était bien dommage. Mais c'était comme ça. Il est donc parti à la pêche. Et quand il est rentré, la femme était toujours là. Et ça sentait bon chez lui. Elle lui dit « Rentre, rentre, je t'ai préparé du bouillon, rentre, assieds-toi » Et l'homme, secrètement ravi, s'assoit. Il prend le bol de bouillon préparé par la femme, il le porte à ses lèvres. Et là, mais c'est bon, c'est bon. C'est tellement bon qu'il en a les poils qui se hérissent sur ses bras. Mais il est bon ton bouillon, il est bon, mais qu'est-ce que tu mets dedans ? Si c'est bon, bois-le. Et ne pose pas de questions, répond la femme. C'est comme dans l'amour, il faut choisir entre l'amour ou les questions. La soirée se passe, le lendemain, il part à la pêche, il revient, bredouille comme d'habitude, et la femme est toujours là. « Entre, entre, je t'ai préparé du bouillon, entre !» Et l'homme s'assoit, et là, le bouillon, il est encore meilleur que le jour précédent. « Il est bon, ton bouillon, il est bon, mais qu'est-ce que tu mets dedans ?» Si c'est bon, bois-le, et ne pose pas de questions. C'est comme dans la vie, il faut choisir entre l'amour et les questions. Et ainsi, tous les soirs, pendant plusieurs semaines. Et au bout de plusieurs semaines, un soir, l'homme prend son courage à deux mains et dit à la femme, « Écoute, ça fait un moment maintenant que tu vis là chez moi, ça se passe bien, est-ce que tu serais d'accord pour m'épouser ?» Et la jeune femme a dit oui. Et ils se sont mariés. Et ce soir-là, pour la première fois, l'homme n'a pas dormi dans la cuisine et c'est la nuit la plus courte de sa vie. Et tous les soirs, il rentrait. « Entre, je t'ai préparé du bouillon. Il est bon, ton bouillon, il est bon. Mais qu'est-ce que tu mets dedans ? Si c'est bon, bois-le et ne pose pas de questions. C'est comme dans la vie, il faut choisir entre l'amour et les questions. » Mais vous savez comment c'est, n'est-ce pas ? Au début, bien évidemment, l'amour gagne. Et puis au fil des jours, les questions commencent à s'imposer. Et un matin, l'homme a fait semblant d'aller travailler. Au préalable, il avait fait un trou dans le mur de la cuisine. Il a fait un grand détour, il est revenu, il a posé son œil devant le trou et puis là, il a regardé. Il a vu sa femme prendre une grande marmite, la remplir d'eau, mettre quelques épices. Il l'a vu de dos en peignoir. Il l'a vu de dos faire glisser son peignoir. Il a vu ses épaules, il a vu le haut de son dos, il a vu le milieu de son dos, il a vu le bas du dos, Il a vu le haut de ses fesses et puis il a vu des écailles et une queue de poisson. Et puis il a vu sa femme voluptueusement plongée dans la marmite, faire quelques allers-retours, et plus elle nageait et plus elle semblait rajeunir. L'homme n'a rien dit. Il est parti à la pêche comme si ne rien n'était. Et le soir, il est rentré. Entre, entre, je t'ai préparé du bouillon. L'homme s'est assis. Il prend le bol de bouillon, mais il n'arrive pas à le porter à ses lèvres. Son épouse pense qu'il est inquiet, et, comme pour le rassurer, elle veut poser sa main sur son épaule, mais lui, sans même s'en rendre compte, très légèrement, repousse un peu l'épaule. Alors la femme le regarde et lui dit « Toi, tu connais la recette du bouillon. » Elle est allée vers l'évier. Elle a plongé dans la bonte de l'évier et comme en ces temps-là, les canalisations étaient très bien faites, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle avait déjà rejoint l'océan. Et l'homme est resté là, tout seul. Et le lendemain, il est allé à la pêche. Et là, c'était comme une sorte de pêche miraculeuse. Il jetait ses filets et des poissons. Il en revenait à n'en plus finir. Il y en avait tellement que même la barque a failli chavirer. Et l'homme est devenu un pêcheur très riche, mais très seul. Et toute sa vie, il s'est posé cette question-là. Faut-il mieux vivre dans l'amour et l'ignorance ou sans amour et dans la connaissance? Et il n'a jamais trouvé la réponse.
Merci Dominique pour ce moment poétique. On poursuit l'évasion avec un instant musical avant de retrouver Côté Anglais avec Chris et Peter.
We'll be right back. So, Mr. Peter, it's good to see you again. Are you well?
Have we started, Mr. Chris?
Yeah, I think we have.
Have we? Okay, let's start again.
Okay.
Gap, so, you know.
So, a little pause.
Little pause.
And then, Mr. Peter, it's good to see you again. Are you well?
I'm hale and hearty, Mr. Chris. What about yourself?
Well, I mustn't grumble. I'm English, and I mustn't grumble. And also, I've got some exciting news.
Really?
Yes, I was speaking to Richard.
Richard?
Yeah, I met him in the gallery. He ran the City Lights bookstore in San Francisco.
No way!
It's true! He knows Ferlinghetti, hung out with Ginsberg and Kerouac, probably had a spliff with Dylan back in the day.
Ferlinghetti?
Yeah, the poet. Invent a new language anyone can understand. Climb the Statue of Liberty, reach for the unattainable, kiss the mirror, and write what you see and hear.
Dance with the wolves and count the stars, including the unseen. I know this. Challenges to young poets.
Exactly. And there's a young poet that has a studio in Le Bazaar. Sarah.
I should hope so. Poetry will get you through times of no...
Banjos?
Exactly. Poetry will get you through times of no banjos better than... Hang on. Why banjos?
Because of Richard.
Richard?
He plays the banjo.
Really?
Yes. But it's been a secret for about 40 years. He's really good.
Just a moment. How do you know if it's a secret?
Althea told me. She heard him play.
Althea, the painter on the third floor?
That's the one. She's holding an exhibition in August.
Her studio is next to Sarah, the poet's.
That's correct.
Someone once said the world is never the same once a poem has been added to it.
It's true of banjos too.
Tell me about it, Mr. Chris.
Well, you know the last time we spoke about the jam birth.
I remember that, but if I hadn't, I could go to the CFM website and find the Bazartland podcast, couldn't I?
Oh, you could. Well, to cut a long story short...
For Mr. or Ms. M. E. Lee of Cord Sur Ciel...
Yes, we must. Richard went along and he told me it was brilliant.
I wish I'd been there.
And he and his banjo are now part of the band.
When can I see them?
On a Thursday evening, once a month. The next opportunity will be the 26th of April, unless this is broadcast after that date. In which case, you'll have to wait till May.
He is a secret banjo player no more.
He's come out of the woodwork.
He had the key all the time.
Do you realise that is the first pun we have pitched this week?
We have been quite composed, in fact.
Which is very noteworthy of us.
Considering that is our forte.
We may get into treble if we continue.
Okay, let's scale back.
And stop harping on.
Finish on a high note.
And guitar act together.
We should, because we've had a second email.
Oh, not Mr. or Mrs. M. E. Lee of Cord again.
No, this one is from, hang on a minute, a certain F. Annette of No Fixed Abode.
No fixed abode? Is that anywhere near address unknown?
No such number, no such zone.
Elvis Presley, return to sender. What did they say?
Oh, come on, sing along.
I gave a letter to the postman.
He put it in his sack.
Bright and early next morning,
he brought my letter back.
She wrote upon it. Written, no, not Elvis. F. N. Et.
Oh, they said some of our jokes are painful.
Oh.
In fact, she described it as a punishment.
Boom, boom. Shh.
Which brings us back to the band.
Ah, it does. Do you realise that Le Bazaar now has a house ice cream, a house band and a house poet?
The poet had an event this month, Alternative Roots. Did you go?
No, I couldn't. I went to Madrid.
Lucky girl.
Who?
The woman you married.
No, Madrid. I went to Madrid. I visited El Prado.
That's a bit bigger than Le Bazaar.
Yes, but the Prado hasn't got a poet in residence, a secret banjo player that no one has ever seen, and a house band called the Bondi de Pays.
Incidentally, I met the fiddle player last week, and it turned out that he didn't know the name of his own band.
What's in a name, eh?
I think they chose it when he was playing a solo.
Oh, talking of solos, maybe we should stop improvising, choose a piece of music, and say goodbye?
What's the time? Oh, yeah, we should. So, I don't know. We've always chosen a French artist before, so how about someone English this time?
Ooh, good idea. See you soon, Mr. Peter.
Next time, Mr. Chris.
Il n'y a plus dans cette ville la joie qu'il y avait avant.
dans le temps. Je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Dans le temps, je m'en vais seule au long des roues, retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé dans cette ville. J'ai beau chercher, mais plus rien. J'ai beau chercher dans les rues, mais pourtant c'est en vain. Tu sais, dans le temps, comment s'aimer? Oh oui, dans le temps, je m'en souviens. Oh oui, dans le temps, qui a passé depuis dans le temps. Dans le temps, dans ce quartier où l'on ne vit que la nuit, il y a comme avant. Dans le temps, autant de vie, de lumière et de bruit, on y venait souvent. Dans le temps, au club où l'on allait danser, j'ai traîné mon ennui. Quand le barman m'a vu entrer toute seule, il a compris ma grande peine. Il n'a rien dit, mais je sais qu'il a compris, il a mis l'air que l'on peut donner, tu sais. Dans le temps, quand on s'aimait, oh oui, dans le temps, tu t'en souviens, oh oui, dans le temps, qui a passé depuis dans le temps. Dans le temps, dans le temps. Mais pourtant, tu vas marcher dans les rues, mais rien n'est comme avant, tu sais.
طاب الليمون عالشجر يمين يهز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره.
Et tout de suite, le moment tant attendu du planning du bazar. On a plein de choses à vous proposer. Samedi 12 mai de 9h30 à 17h, atelier de teinture à l'indigo. Guidé par Frédéric Boyer, le paysan des couleurs, apprenez à monter une cuve écologique et percer les secrets de la teinture à l'indigo. Atelier pour adultes au prix de 50€. Jeudi 24 mai à 20h, en entrée libre, jam session par le groupe des Bandits du Pays. Les samedis 26 et dimanche 27, de 10h à 13h et de 15h à 18h, atelier de verre à la flamme. Accompagné par Émilie Thomas, notre artiste verrier maison, initiez-vous à la magie du verre en fusion à travers la réalisation de bijoux ou de sculptures. Séance 2-3 heures au prix de 45€. Enfin, le 31 mai à 18h30, en entrée libre, le tracteur savant organise avec Azouz Begag pour son dernier livre « Mémoire du soleil », parution aux éditions Seuil, une rencontre conviviale suivie d'une auberge espagnole. Pour toute information ou réservation, vous pouvez contacter le bazar au 06 79 43 26 70 ou par mail bazar.collectif@gmail.com. Et pour finir, tout au long du mois de mai, découvrez à la galerie l'univers onirique et poétique de Mélanie Gabu et Émilie Ramboz. Une exposition évolutive sous forme de carte blanche intitulée « Je rêve d'eux » avec en écho au Café Associatif le travail de la photographe Hélène Fleiss. « Bazartland, c'est fini pour ce mois-ci. Rendez-vous le mois prochain, même lieu, même heure. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur cfmradio.fr rubrique Bazartland ou venir nous rendre visite à Saint-Antonin-Nobleval au 13 rue Saint-Angèle. À très vite!